Il faut honorer ses maîtres, à tout moment. Mais le meilleur moment, certainement, est celui où tout un chacun, pour mieux marquer son empressement à suivre un nouveau cours des évidences, s'emploie au contraire à les déshonorer. Ce moment était venu pour Marx en janvier 1873 à l'égard de son maître Hegel, dont il dit dans un passage de la postface à la seconde édition de Das Kapital ceci. Mais juste au moment où j'élaborais le premier volume du Capital, les épigones grincheux, prétentieux et médiocres qui tiennent actuellement le haut du pavé dans l'Allemagne cultivée se complaisaient à traiter Hegel de la même manière que, du temps de Lessing, Moses Mendelssohn avait traité Spinoza, à savoir de chien crevé. Aussi me suis-je ouvertement déclaré disciple de ce grand penseur, et dans le chapitre sur la théorie de la valeur, j'allais même jusqu'à flirter ça et là avec son style particulier. Le même moment est venu pour nous à l'égard de Marx. Ne serait-ce que pour éviter que sa pensée ne soit purement et simplement retirée de la circulation culturelle, comme le passage que je viens de citer, de la version française du Capital. Et de la main de Marx. Encore, Marx a-t-il consenti à cette suppression, comme à celle de tous les hegelianismes, et même de la plupart des moments ou des tournures un peu trop philosophiques de son texte, à cause du soupçon justifié que la France de M. Thiers n'y comprendrait rien. Espérons seulement que ce jugement ne vaut plus tout à fait pour la France cultivée d'aujourd'hui, malgré l'actuel regain de l'épigonalité, ou plutôt dans notre cas de l'hexagonalité, prétentieuse et médiocre. Espérons. Même si cette espérance est sans beaucoup d'espoir, et en tout cas agissons comme nous le devons, car, je le répète, il faut honorer ses maîtres. Pourquoi le concept de forme dans Das Kapital? Parce que Das Kapital dans le concept de forme. De façon moins concise, parce que je crois possible, et même nécessaire, de trouver dans l'emploi et la détermination du concept de forme chez Marx, le fil conducteur d'une lecture de l'œuvre maîtresse, qui conspire avec ce que l'horizon actuel de notre compréhension et de nos interrogations nous permet d'apercevoir comme la tâche la plus propre, c'est-à-dire la tâche déjà à venir, de la pensée à la fois logiquement et ontologiquement. Il est bien certain, vous vous en doutez, que cette affirmation ne recevra ici, dans le meilleur des cas, qu'un commencement d'accréditation. Si cela se fait, ce sera déjà bien. Si au contraire je devais échouer à la rendre simplement plausible, que du moins ce que j'ai conçu comme un hommage à Marx ne se retourne pas contre lui, c'est sur l'ours qu'il faut renvoyer son pavé. In medias res donc, et d'autant plus que le temps par définition nous presse, in medias res pour dire aussitôt qu'en vérité, il n'y a pas un concept de forme seulement chez Marx, mais deux. Les formes d'apparition et les formes, sans autre détermination. Le second de ces concepts est celui qui nous intéresse, mais le premier est celui par lequel nous commencerons, car c'est la détermination attentive des caractéristiques des formes d'apparition qui nous mettra sur la voie d'une compréhension des formes tout court. Précisons encore seulement que les termes de la question seront puisés au livre 1, 6e section, chapitre sur le salaire, c'est-à-dire le 19e chapitre dans l'édition de la Pléiade, tome 1, page 1029-1038, qui curieusement se trouve être seulement le 17e chapitre dans l'édition Dietz Verlag, Berlin, 1969, Erster Band, page 557-564. Je donne ces indications pour le cas, vous aimeriez y revenir. Tout le chapitre donc sur le salaire, tout le chapitre est pour démonter le processus par lequel le rapport essentiel constitutif du salaire, l'achat de la force de travail, apparaît sous une certaine forme, nommée par conséquent Erscheinungsform, forme d'apparition, forme phénoménale dans l'introduction, qui semble faire du salaire la valeur du travail, masquant par là même l'irrationalité de cette dernière expression. La portée de cet exemple est que, touchant à la source même du mode capitaliste de production, la confusion dans les consciences comme dans les concepts du travail et de la force de travail, il est généralisable à tous les phénomènes de la production, à toutes les formes d'apparition. Ce que résume ainsi la dernière phrase du chapitre, il en est d'ailleurs de la forme, valeur et prix du travail ou salaire, vis-à-vis du rapport essentiel qu'elle renferme, savoir la valeur et le prix de la force de travail, comme de toutes les formes phénoménales. Les premières se réfléchissent spontanément, immédiatement dans l'entendement, le second doit être découvert par la science. L'économie politique classique touche de près le véritable état de choses, Sachverhalt, sans jamais le formuler consciemment. Et cela ne lui sera pas possible tant qu'elle n'aura pas dépouillé sa vieille peau bourgeoise. Une forme phénoménale est ainsi une Erscheinungsform, dans les deux sens du terme Erscheinung, qui sont aussi les deux sens, ça arrive qu'on ait de la chance, du français apparence, c'est-à-dire d'une part qu'elle signifie l'apparition effective du substrat, l'apparition effective de la réalité à la surface, c'est-à-dire pour les agents du marché. Erscheint est pris ici au sens fort qu'il a dans la première phrase du chapitre, à la surface de la société bourgeoise, la rétribution du travailleur apparaît en tant que prix du travail. Erscheint als Preis der Arbeit. J'ai traduit apparaît, ou bien se présente, et non pas comme le fait la traduction française, dont vous savez que cependant elle a été approuvée par Marx, par se représente, et encore moins se représente comme salaire du travail, ce qui cette fois-ci est une paraphrase fantaisiste qui brouille tout le sens du passage. Cette façon de se présenter, qu'a le salaire comme forme d'apparition, c'est-à-dire se présenter comme la prétendue valeur du travail, cette façon de se présenter est tout aussi inévitable que celle dont le soleil se présente dans ce qu'on appelle en effet son mouvement apparent. Et tout aussi fausse par rapport au rapport essentiel ou substrat, qu'elle recèle, c'est-à-dire non seulement qu'elle contient, mais encore qu'elle cache. La forme phénoménale eh bien, en effet, une Erscheinung au deuxième sens, au sens du shine, autrement dit, une apparence au deuxième sens, au sens d'illusion. Il s'agit même d'un ensemble d'apparences qui, non seulement, ne font pas apparaître le rapport vrai dont elles sont pourtant les apparences, mais qui même en font paraître un autre, un pseudo-substrat. Ici donc le salaire semble faire apparaître la valeur du travail. C'est ce que détaille la page 1036. Je vais donc vous la lire dans son détail. S'il faut beaucoup de temps avant que l'histoire ne parvienne à déchiffrer le secret du salaire du travail, rien n'est au contraire plus facile à comprendre que la nécessité, que les raisons d'être de cette forme phénoménale. Rien ne distingue au premier abord l'échange entre capital et travail, de l'achat et de la vente, de toute autre marchandise. L'acheteur donne une certaine somme d'argent, le vendeur un article qui diffère de l'argent. Au point de vue du droit, on ne reconnaît donc dans le contrat de travail d'autres différences d'avec tout autre genre de contrat que celles contenues dans les formules juridiquement équivalentes do ut des, do ut facias, facio ut des et facio ut facias. Valeur d'usage et valeur d'échange étant par leur nature des grandeurs incommensurables entre elles, les expressions valeur du travail, prix du travail ne semblent pas plus irrationnelles que les expressions valeur du coton, prix du coton. En outre, ce qui est évidemment une allusion au passage d'Aristote de l'Éthique à Nicomaque, où il explique qu'il ne comprend pas la valeur de quelque chose parce que la valeur suppose la commensurabilité et que la commensurabilité elle-même suppose une unité qui fait défaut. Donc toute valeur paraît finalement incommensurable, et de ce point de vue, les expressions valeur du travail, prix du travail, ne semblent pas plus irrationnelles que les expressions valeur du coton, prix du coton. En outre, le travailleur n'est payé qu'après avoir livré son travail. Or, dans sa fonction de moyen de paiement, l'argent ne fait que réaliser après coup la valeur ou le prix de l'article livré, c'est-à-dire dans notre cas, la valeur ou le prix du travail exécuté. Enfin, la valeur d'usage que l'ouvrier fournit au capitaliste, ce n'est pas en réalité sa force de travail, mais l'usage de cette force, sa fonction, le travail. D'après toutes les apparences, ce que le capitaliste paye, c'est donc la valeur de l'utilité que l'ouvrier lui donne, la valeur du travail, et non celle de la force de travail que l'ouvrier ne semble pas aliéner et qui est pourtant bel et bien ce qui l'aliène et qui est pourtant bel et bien le rapport vrai, le rapport essentiel. La seule expérience de la vie pratique ne fait pas ressortir la double utilité du travail, la propriété de satisfaire un besoin qu'il a en commun avec toutes les marchandises et celle de créer de la valeur qui le distingue de toutes les marchandises et l'exclut comme élément formateur de la valeur, de la possibilité d'en avoir aucune. En somme, ce premier concept de forme, comme forme phénoménale, reste, il faudrait mieux dire forme d'apparition, une fois pour toutes, reste épistémologiquement et métaphysiquement tout à fait classique. Il implique la pure et simple identité et la pure et simple dualité de la réalité et de l'apparence. Identité, parce que c'est le réel, le rapport vrai, le substrat qui entre en apparition sous cette forme fausse. Et aussi bien parce que cette forme fausse fait apparaître un faux substrat. Dualité, parce que ce qui paraît ne paraît pas comme il est, et que ce qui paraît être n'est pas comme il paraît. Ainsi en va-t-il du règne de l'apparence, qui est donc absolument indémêlable en lui-même, et qu'il faut quitter pour saisir au-delà de lui des rapports d'entendement. Non moins classiquement, nous voyons donc se reformer ici l'opposition de la doxa et de la science, La logique de sexy est alors, par définition, celle d'un ensemble de rapports transcendant à l'ordre même du paraître. Et si le savoir, comme il convient également de façon classique, sauve les phénomènes, c'est en les absorbant dans une vérité objective. Ce n'est certainement pas en se développant lui-même comme une phénoménologique. Toutefois, si nous sommes attentifs à situer ou à définir ce qui permet ainsi à Marx de distinguer les uns des autres et de régler dans leur rapport les formes d'apparition, le substrat réel dont elles sont l'apparition, mais qui pourtant, justement, n'apparaît pas en elles, et le faux substrat qui, lui, au contraire, paraît paraître, nous nous apercevons que c'est le savoir critique du salaire, dans et pour lequel le salaire est compris encore une fois comme une forme. Mais cette fois, dans sa vérité même, et non dans son apparition. Cette forme tout court, la forme salaire, est aussi ce que le texte nomme, dans des expressions qui, pour nous, entrent en consonance avec le langage de Husserl et avec celui des logiciens, wesentliche Verhältnis, rapport des sens, et Sachverhalt, état de choses. Toutefois, ce que ces consonances suggèrent est trop lointain et trop périlleux pour nous fournir un fil de lecture suffisamment solide. En revanche, il est peut-être possible de découvrir en Marx, en tant que penseur des formes, une originalité du mode de pensée que nous aurions toutes les raisons de considérer comme une ontologique qui se développe en tant que phénoménologique, à condition d'admettre que la résonance après coup, et cette fois avec Heidegger, et sans oublier le fait qu'elle suppose Aristote. Elle est avec Heidegger, d'abord parce que la description des formes est bien celle d'autant de phénomènes, mais de phénomènes essentiellement inapparaissants, dont l'inapparence n'est cependant nullement celle de la transcendance de l'objet intelligible classique. Elle est avec Heidegger ensuite parce que le savoir critique d'où partent et à quoi reviennent toujours les descriptions de formes se trouve exactement dans cette situation que Sein und Zeit en son paragraphe 45 appelle la situation herméneutique. Fait de la triple anticipation d'une caractéristique phénoménale, d'une vue préalable sur la structure d'être du domaine considéré, et partant de là, d'une certaine conceptualité. C'est reconnu la Trinité, si j'ose dire, de la Vorsicht, la Vorhabe et du Vorgriff. Il est inévitable que ce que nous disons voir poindre ainsi chez Marx comme une originalité du mode même de pensée ne paraisse relever d'un invraisemblable plaquage de thèmes logiques, phénoménologiques et ontologiques du premier quart du XXe siècle sur une œuvre du milieu du XIXe, dont on présume que, précisément à cause de la différence des temps, elle ne saurait les recevoir sans violence. Toutefois, cette réticence de principe repose elle-même sur une évidence qui fait aux grandes pensées et à l'histoire une violence beaucoup plus certaine, en ceci qu'elle réduit les premières à n'être que des produits des différents états de culture, que l'on croit voir se succéder dans l'histoire, pêle-mêle avec les autres types d'événements les plus variés qui en formeraient le contenu, tandis qu'elle reste aveugle à ce que la pensée et l'histoire doivent toutes deux ensemble à l'historial, dans lequel elles se répondent d'une manière qui échappe essentiellement à la linéarité et à la platitude des périodisations culturelles. Je crois plus sérieusement que si la lecture de Marx dont on propose ici les tout premiers pas, et qui, répétons-le, consiste à déceler dans l'œuvre qui porte cette signature une pensée des formes ontophénoménologiques en consonance avec les plus extrêmes avancées de la pensée de notre temps, non seulement, je crois donc que si cette telle lecture non seulement n'a pas été essayée, mais n'a même pas été soupçonnée jusqu'ici, c'est sans doute parce que le chemin de lecture était tout entier occupé, pour ne pas dire obstrué, par les problèmes traditionnels concernant le caractère dialectique matérialiste scientifique de la théorie marxiste, comme on disait. Non que le texte, et plus encore la conscience de soi doctrinale et méthodologique de l'auteur, lorsqu'elle s'exprime pour elle-même, ne propose en effet à la postérité cet unique et triple problème. Mais il me semble que si toutes les tentatives pour le résoudre ont échoué, soit sur la rive d'un dogmatisme métaphysique inversé, philosophiquement nul, soit dans les sables d'une coupure épistémologique introuvable, scientifiquement vide, c'est faute d'avoir assez patiemment retracé dans le texte le fil ténu mais incassable d'une question bien antérieure, celle de son mode d'écriture en tant qu'écriture de forme. Il est vrai que pour retrouver cette trace, le lecteur français devra remonter presque toujours de la traduction à l'original, tant l'unique souci du traducteur semble avoir été de supprimer tous les passages, toutes les locutions, tous les mots, et tous les réponses des mots entre eux, ou précisément la tournure philosophique de la pensée de Marx en tant que tournure formelle se montrait, pour ainsi dire, à même la langue. Que l'auteur ait approuvé ce dégât, ou qu'il s'y soit résigné, ne change rien, il va de soi, à la légitimité de notre entreprise. Ce qui donc, disions-nous, n'apparaît pas dans les formes de sa propre apparition, le réel, l'essentiel, le vrai, est lui-même forme. Le salaire pensé par Marx est la forme salaire. Ce n'est pas la seule. Elle intervient à sa place dans une longue série d'analyses, qui toutes sont des analyses de forme. La forme marchandise, la forme valeur sainte, elle-même comme jeu réciproque de la forme relative et de la forme équivalente, la forme valeur totale ou développée, la forme valeur générale, la forme monnaie ou argent. Celle-ci, à travers la forme moyenne paiement, qui succède à la forme trésor, atteint son universalisation formelle en tant que monnaie du monde, et l'expression Marx, jusqu'à ce qu'enfin, ce mouvement de perpétuelle transformation, ce passage de forme en forme que Marx appelle toujours du même mot, die Verwandlung, la métamorphose, s'accomplisse dans sa fin, c'est-à-dire dans la transformation de l'argent en capital, ultime métamorphose qui fait de celle-ci un monde, notre monde. Que ce terme historique soit en même temps le point de départ de l'analyse, nous le montrerons dans un instant. La question qui se pose pour le moment est, que veut dire forme? Ici, où le terme ne signifie plus la forme d'apparition, mais la vérité inapparente. La seule indication expresse, donc pour savoir ce que veut dire forme, ici, où le terme signifie plus la forme d'apparition mais la vérité inapparente, la seule indication expresse dont nous disposons dans le texte de Marx est que forme, ici, s'oppose, ce qui paraîtra guère nouveau, au matériel, das Stoffliche. Je dis dans le texte, car ce matériel, est précisément ce qui a disparu de la traduction. Il faut donc comparer Pléiade 1, page 1036, à l'original, page 563. C'est un petit passage du long passage que j'ai lu tout à l'heure. Rien ne distingue au premier abord, dit le français, l'échange entre capital et travail, de l'achat et de la vente, de toute autre marchandise. L'acheteur donne une certaine somme d'argent, le vendeur un article qui diffère de l'argent. Au point de vue du droit, on ne reconnaît donc dans le contrat de travail d'autres différences avec tout autre genre de contrat que celles contenues dans les formules juridiquement équivalentes, do ut des, do ut facias, etc. Mais l'allemand lui disait, Das Rechtbewusstsein erkannt hier höchstens einen stofflichen Unterschied, der sich ausdrückt in den rechtlich äquivalenten Formeln do ut des, do ut facias, facio ut des. C'est-à-dire, la conscience juridique, elle reconnaît ici höchstens, en mettant les choses au mieux, n'est-ce pas, einen stofflichen Unterschied, une différence matérielle. Donc, qui s'exprime dans les formules juridiquement équivalentes, do ut des, do ut facias, etc. Cette différence matérielle a disparu de la traduction. De même que, au tout début, à la toute première phrase du chapitre suivant, le Zeitlohn, le français dit, le salaire revêt, c'est de la page 1039, le salaire revêt à son tour des formes très variées sur lesquelles les auteurs de traités d'économie que le fait brutal seul intéresse ne fournissent aucun éclaircissement. Là où l'allemand dit, der Arbeitslohn nimmt selbst wieder sehr mannigfaltige Formen an, ein Umstand nicht erkennbar aus den ökonomischen Kompendien, die in ihrer brutalen Interessiertheit für den Stoff jeden Formunterschied vernachlässigen. C'est-à-dire, le salaire du travail prend lui-même à nouveau des formes très diverses, une circonstance qui n'est pas reconnaissable à partir des compilations économiques qui, dans leur être intéressé brutal, être intéressé für den Stoff, pour la matière, vernachlässigen, néglige, et laisse derrière eux, abandonne, néglige et abandonne, jeden Formunterschied, toute différence de forme. Toutefois, la leçon à retirer de là n'est pas seulement ce qui serait déjà salutaire, que le penseur matérialiste est précisément celui qui pense non le matériel, mais le formel. La question est plutôt qu'il nous faut déterminer plusieurs sens de la matérialité et plusieurs sens de la formalité jusqu'à être capable de ne plus les confondre. Car das Stoffliche, dans les textes que nous avons cités, mais on en trouverait confirmation partout, où il est question de la conscience des agents du marché ou de la réflexion immédiate de cette conscience dans la théorie économique, par conséquent dans les théories sur la plus-value, plus souvent peut-être encore que dans Das Kapital. Das Stoffliche désigne dans ces textes précisément les formes d'apparition, les apparences dans ce qu'elles offrent immédiatement saisissables, les réalités, pseudo-réalités pour la critique, pour lesquels se donnent les apparences quotidiennes de la pratique du travail et de la pratique du capital. Ici, c'est-à-dire dans notre exemple choisi du salaire, la pseudo-réalité valeur du travail, qui ne peut pas ne pas apparaître, ne peut pas ne pas apparaître, comme la matière même du vécu de production, aussi bien du côté de l'ouvrier que de celui du capitaliste, et là, il nous faut lire une dernière fois un petit peu longuement. Plaçons-nous au point de vue de l'ouvrier, c'est 1037 dans la Pléiade. Plaçons-nous au point de vue de l'ouvrier à qui son travail de 12 heures rapporte une valeur produite en 6 heures, soit 3 francs. Son travail de 12 heures est pour lui en réalité le moyen d'achat des 3 francs. Il se peut que sa rétribution tantôt s'élève à 4 francs, tantôt tombe à 2 francs, par suite ou des changements survenus dans la valeur de sa force, ou des fluctuations dans le rapport de l'offre et de la demande. L'ouvrier n'en donne pas moins toujours 12 heures de travail. Toute variation de grandeur dans l'équivalent qu'il reçoit lui apparaît donc nécessairement comme une variation dans la valeur ou le prix de ses 12 heures de travail. Et la même apparence se confirme si nous nous plaçons maintenant, en quittant le point de vue de l'ouvrier, au point de vue du capitaliste. Prenons maintenant le capitaliste. Que veut celui-ci ? Obtenir le plus de travail possible, pour le moins d'argent possible. Ce qui l'intéresse pratiquement, ce n'est donc que la différence entre le prix de la force de travail et la valeur qu'elle crée par sa fonction. Encore que ce pratiquement fait appel ici, c'est un petit moment de fléchissement du texte au savoir critique, alors que le texte décrit, est supposé décrire ce qui se passe dans la conscience de l'agent du marché que le capitaliste. Il faudrait donc d'autres formulations pour dire la même chose, mais ça n'entache pas l'ensemble. Mais il cherche à acheter de même, en réalité c'est pas le prix de la force de travail qu'il pense acheter, il lui paraît qu'il achète, le travail. Ce qui, en un sens, n'est pas faux, parce que ce qu'il achète est ce qu'il paye, c'est pas la même chose. Ce qu'il paye, c'est la force de travail, ce qu'il achète, c'est la force de travail et son usage. Et par conséquent, en un sens, en effet, le travail lui-même, excepté que dans cet achat, on a affaire à une forme tout à fait bizarre et intenable, puisqu'elle est pour la moitié un paiement et pour l'autre un non-paiement. J'aimerais bien que nos achats se composent pour moitié d'un paiement, pour moitié d'un non-paiement. Mais il cherche à acheter de même, c'est cette puérile bonne surprise, finalement, qui définit l'horizon de la conscience du capitaliste. Mais il cherche à acheter de même tout autre article au meilleur marché possible et s'explique partout le profit par ce simple truc. Acheter des marchandises au-dessous de leur valeur et les vendre au-dessus. Ce qui n'a aucun sens puisqu'on a démontré depuis bien longtemps que les marchandises se vendent à leur valeur. Aussi n'arrive-t-il jamais à s'apercevoir que s'il existait réellement une chose telle que la valeur du travail, et qu'il eût à payer cette valeur, il n'existerait plus de capital, et que son argent perdrait la qualité occulte de faire des petits. Tokos, encore une allusion à Aristote, la plus-value Tokos. Et cette dernière phrase, du reste, la qualité occulte de faire des petits, n'est-ce pas, son argent perdrait la qualité occulte de faire des petits, remplace, je ne dis pas traduit, mais remplace, la phrase suivante dans l'original, sein Geld sich nicht in Kapital verwandeln würde, c'est-à-dire, bien entendu, son argent ne se métamorphoserait pas en capital, comme si décidément, ce qu'il s'agissait de faire disparaître de la version française était bien le langage même des formes et des métamorphoses. L'apparence est donc ce qui donne immédiatement, ce qui donne en elle-même et comme elle-même son objet. D'où pourrait-on dire le fait qu'elle est de l'étoffe, qu'elle soit das Stoffliche. Les formes de conscience des agents de la production, ainsi que les formes conceptuelles de la théorie économique qui les réfléchit, sont donc les formes du matériel, au sens où matériel désigne le lien de l'apparaître à l'être, comme lien lui-même apparaissant ou immédiat. Les catégories des économistes sont en général de telles formes du matériel. Que sont donc, par opposition, les formes, au sens de la forme valeur, forme monnaie, forme capital, forme salaire, etc. Sinon, les formes de l'essentiellement inapparaissant. Non des formes, qui serait celle d'une réalité vraie, d'un ontos on, caché simplement à nous autres hommes, mais qui pourrait apparaître, par exemple à un entendement métaphysiquement purifié, mais bien des formes, Puis, si elle se prête en effet à l'exposition, Darstellung der Formen est une expression du chapitre 20, n'apparaissent qu'ainsi, et donc avec des guillemets apparaissent, c'est-à-dire dans le train du discours, où toutes choses peuvent se dire, mais aucune paraître. Ce que le discours des formes expose n'est jamais ce sur quoi il débouche, et qu'il laisserait pour ainsi dire à son épiphanie en mourant sur le seuil. Le discours des formes, en tant que les formes sont l'affaire du discours, ce qu'il s'attache à exposer, ne fait apparaître les formes que dans les formes du discours, c'est-à-dire que dans le tour de l'exposition. C'est pourquoi le retard à l'écriture, si célèbre précisément dans le cas de Das Kapital, dont la livraison fut tant de fois promise par Marx à son éditeur, et chaque fois remise, n'a jamais rien dû aux circonstances. Il fallait attendre que la forme d'exposition s'imposât. Elle le fit comme on sait un bon jour, et selon Marx absolument par hasard, après une relecture de la Grande Logique. Je ne crois pas cependant, et je ne crois pas non plus que Marx ait lui-même cru à ce hasard. Je crois que c'est un vice. S'il est vrai, comme il l'a écrit aussi, que la logique de Hegel est la richesse de l'esprit, et que ce qui attendait sa forme d'exposition chez Marx était l'esprit de la richesse. Cette dernière remarque nous met au plus près de ce que j'ai appelé tout à l'heure la situation herméneutique telle que la structure, le paragraphe 45 de Simon Zeit, et dont j'ai dit qu'elle s'appliquait comme un gant à la pensée de Marx. Celle-ci, en effet, n'est à aucun titre une critique de l'économie politique qui appartiendrait encore à l'horizon de l'économie politique elle-même, qu'elle se contenterait de corriger suffisamment pour la porter au niveau d'une science véritable. Car l'horizon de l'économie politique n'a jamais dépassé la détermination de la production de la richesse des nations, pour reprendre le titre de son fondateur. À supposer que le véritable fondateur ne soit pas derrière Adam Smith, plutôt David Hume lui-même. Donc, en tout cas, il est certain que l'horizon de l'économie politique n'a jamais dépassé la détermination de la production comme production de la richesse des nations. Certes, l'apparition de cette science, qui est, selon le mot de Hegel, la science la plus propre des temps modernes, doit être entendu déjà en un sens historial-ontologique, c'est-à-dire comme l'expression de la façon moderne de faire monde, donc d'un certain esprit. À ce titre, elle signifie que la richesse est l'esprit de la production et l'esprit des nations modernes, l'esprit de nos sociétés en tant que corps productif. Mais c'est justement parce que la richesse est pour elle l'esprit même, que l'esprit de la richesse constitue pour l'économie politique une expression dénuée de sens. En faisant de cet esprit de la richesse sous le nom de capital, ou plutôt sous la forme capitale, la structure d'être de son étant thématique, qui est, comme pour l'économie politique, la production moderne, le travail de Marx échappe du même coup dans sa prévision, Vorsicht, qui est en même temps, en allemand du moins, ça n'a guère été remarqué, sa prudence. Vorsicht n'a guère même que ce sens dans la langue. Le travail de Marx échappe donc du même coup dans sa Vorsicht au champ d'attraction de l'économie politique et demeure résolument dans celui de la philosophie. Que maintenant, la pensée historiale-ontologique de la forme capitale porte également comme sous-titre celui de critique de l'économie politique. Cela ne peut plus rien vouloir dire d'autre que la mise en crise de cette science dans ses fondements mêmes. Nous n'avons fait encore cependant que désigner ainsi cet élément de la situation herméneutique Heidegger appelle Vorsicht, Il nous reste encore à déterminer en quoi consiste le capital comme esprit de la richesse. C'est pour de certaines raisons où il y va de l'ultime détermination ontologique des formes, dans l'exposition marxienne de cette forme des formes qu'est le capital, ce que nous réservons pour la fin. S'il nous entendit y aller. Cependant, la situation herméneutique ne compte pas seulement parmi les présuppositions en quoi elle consiste, la prudence de la prévision. Ces présuppositions, comme on sait, sont trois, Vorsicht, Vorhabe et Vorgriff. Ces trois termes correspondent exactement à ce que nous avons appelé une ontophénoménologie. Si, en effet, la Vorsicht est une prévision circonspecte du mode d'être de l'état concerné, comme dit le paragraphe 45, et donc est le moment où le versant proprement ontologique de la pensée, la Vorhabe, elle, la préacquisition, la traduction, consiste à préacquérir l'état thématique à l'aide d'une première caractérisation phénoménale, dit le paragraphe 45, et elle est donc le moment où le versant proprement phénoménologique de l'interprétation. Enfin, l'entrecroisement d'ontologie et de phénoménologie, ou de pré-ontologie et de pré-phénoménologie, prédessine du même coup la logique, la conceptualité dans laquelle toutes les structures d'être doivent être dégagées, prédessine ce qui chez Marx porte le nom de forme. C'est la Vorgriff, y compris toujours dans le paragraphe 45, comme un Vorzeichen der Begrifflichkeit, comme une sorte d'esquisse de la conceptualité. Mais, quel est chez Marx le nom, et surtout le contenu, de ce que Heidegger appelle Vorhabe? Pour urgente qu'elle soit, cette question est cependant précédée peut-être par une autre. S'il est vrai que, je cite toujours le paragraphe 45, le tout des présuppositions que nous appelons situation herméneutique, donc le tout de Vorsicht, Vorhabe et Vorgriff, exige d'être préalablement clarifié et assuré à partir de et dans une expérience fondamentale de l'objet, entre guillemets, à ouvrir. Quelle est donc, pour Marx, cette expérience fondamentale de l'étant, dans laquelle le tout de la pensée, dans l'unité de ces trois aspects, détermination de la structure d'être, caractérisation phénoménale de son étant thématique et élaboration d'une conceptualité, doit seulement trouver son assurance, c'est-à-dire ce qui l'assure qu'elle est à la mesure du phénomène, une phénoménale Anmessung gesichert,